efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Vous le savez désormais, chaque mois, notre chroniqueuse, le médecin sexologue Catherine Solano, répond à toutes vos questions sur la sexualité. Aujourd'hui, notre thème est le suivant. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel réussi ? Pour être heureux dans son couple, il est important d'avoir une sexualité épanouie, une sexualité qui convienne aux deux partenaires. Mais quels sont les éléments qui nous rendent heureux dans la sexualité ? Des gestes appropriés, des paroles, des sentiments, des sensations ? Des positions particulières peuvent nous aider à mieux apprécier notre sexualité, mais la complicité, les jeux à deux et même la rigolade sont également des éléments nous permettant de qualifier nos rapports de réussis. Alors, chaque couple a sa propre manière d'être heureux sexuellement, l'idéal étant donc de trouver cette manière qui nous convient le mieux. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux, vous ? Avez-vous trouvé les éléments pour une sexualité épanouie ? Et inversement, quelles sont vos déceptions, vos interrogations ? Qu'est-ce qui fait que vos rapports sont parfois qualifiés de ratés et comment surmonter ces échecs. Avec Catherine Solano, nous attendons vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 pour vivre une belle et heureuse sexualité.
RFI.
Bonjour Catherine Solano.
Bonjour Igor.
Alors, comment réussir sa sexualité ? Est-ce que c'est une question qui revient finalement souvent dans vos consultations, Catherine ?
C'est pas une question qui revient directement parce que les personnes qui viennent me voir en consultation viennent pour des difficultés. Et donc, c'est quand même important pour avoir une sexualité épanouie et réussie. Ben, il faut d'abord essayer de surmonter les difficultés. C'est que dans un deuxième temps qu'on peut se dire on veut que ça soit encore mieux. Mais la première chose, c'est d'éliminer les problèmes.
Avoir une sexualité réussie, finalement, c'est plus difficile qu'on l'imagine, c'est ça ?
C'est plus difficile qu'on l'imagine et c'est plus facile aussi parce que je trouve que on a tendance à trop idéaliser la sexualité. Si on vous dit comment avoir une alimentation réussie, bon, vous allez dire des fois c'est délicieux, des fois c'est un peu moins bon. Bon,
chacun ses goûts, nous sommes tous différents.
Voilà, on est tous différents. Et la sexualité, souvent, on a un idéal soit romantique, soit sexuel. Alors qu'en fait, la sexualité, ça fait partie de la vie. Il faut tout faire pour la réussir, mais ça peut pas être réussi à 100% du temps. Des fois, c'est plus ou moins bien quand même. Ce qui compte, c'est d'être bien ensemble. C'est pas que chaque moment soit merveilleux, parce que c'est pas possible.
Peut-on être heureux en mettant ses préférences de côté pour satisfaire celles de son partenaire ?
Alors, oui. Si c'est pas à 100% du temps. Parce que dans un couple, il peut pas y avoir, je dirais, sur le plan sexuel, un donneur et un receveur permanent. Si moi, je veux donner du plaisir à mon partenaire, mais que j'en prends jamais, il y a un moment où ça va être déséquilibré. Parce que l'autre, il sera frustré de pas me donner du plaisir, ou moi, je serai frustré de pas en avoir. Donc, il faut que la relation soit équilibrée. C'est formidable de savoir mettre ses préférences de côté pour donner du plaisir à l'autre, à condition de pas s'oublier.
Exactement. Alors, 33 1 84 22 75 75. On va prendre une première auditrice, c'est Mariam qui nous appelle de Conakry. Bonjour Mariam.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre question Mariam ?
Moi, en personne, je n'ai pas assez d'expérience sur la sexualité parce que lorsque j'étais à l'école, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de mes études avant de commencer à sortir. Mais j'en ai plein d'amis avec lesquels j'en parle souvent. Elles me parlent de leur vie sexuelle et des déceptions qu'elles rencontrent tout au long de leur vie, tout ce qu'elles ont vécu ou qu'elles sont en train de vivre. Et je trouve vraiment que moi, j'ai un peu peur parce que lorsqu'elles me racontent leur vie, je me dis que j'ai peur de vivre les mêmes phénomènes.
Mais alors, qu'est-ce qui inquiète vos amis, justement ? On a compris que vous, personnellement, c'était les études qui primaient. Mais vos amis, qu'est-ce qui les inquiète ?
J'ai des amis, par exemple, qui me disent qu'elles sortent avec tel mec, qu'elles ne sont pas satisfaites sexuellement, que lorsqu'elles font l'amour, que l'homme ne pense qu'à lui, qu'à ses plaisirs personnels. elles sont gênées de... Vous savez, chez nous, en Afrique, souvent, le sexe, c'est un tabou, c'est un grand tabou. Même dans les couples officiellement mariés, c'est un tabou d'en parler. Et surtout la femme, elle est souvent ségrégée. Et elle n'ose pas réclamer ce qu'elle veut parce que souvent, certaines de mes copines me disent, ou même des grandes femmes que je rencontre avec lesquelles je cause, me disent souvent, lorsqu'elles demandent à être satisfaites, que leur époux ou leur conjoint les prend souvent pour des femmes perverses qui sont insatiables. Donc du coup, elles n'osent pas réclamer ce qu'elles veulent et comme elles le voudraient vraiment.
Bien sûr. Alors, plusieurs choses. Hein. Merci, Mariam, vraiment pour ce témoignage extrêmement intéressant. Plusieurs choses, Catherine, déjà pour aller dans le sens de Mariam, on a Yacouba hein, qui lui aussi nous dit qu'en Afrique, eh bien, la sexualité est un sujet tabou, que c'est très difficile de savoir si son partenaire est satisfait ou non. Alors ça, c'était une partie du commentaire de Mariam, mais il y a aussi donc sur la communication hein, entre les couples et puis sur l'égoïsme de l'homme qui ne pense qu'à lui. Qu'est-ce qu'on peut dire à Mariam ?
Oh là là, il y a beaucoup de choses à
là,
dire.
Là, on peut faire une émission entière sur voilà. Ces propos.
D'abord, c'est que les femmes n'osent pas réclamer. Mais bon, il n'y a pas à réclamer. Je dirais, c'est un mot qui est excessif, quoi. C'est plutôt à expliquer. Vous voyez, je pense que c'est ça qui est important. C'est que souvent, une femme va trouver qu'un homme est égoïste. Pourquoi ? Je prends un exemple. Parce que elles vont dire, il va directement faire des caresses au sexe. Il me fait pas des caresses sur les épaules, sur le visage. Il m'embrasse pas beaucoup. C'est zoup directement au sexe. Et on a l'impression qu'il est égoïste. Et en fait, souvent, il agit comme ça parce que pour lui, c'est ce qu'il y a de plus agréable, les caresses directement sur le sexe. Donc, il se dit, bah, si pour moi c'est agréable, pour elle, ça doit être agréable. Donc, on a tendance à donner à l'autre ce qu'on aimerait recevoir. Et du coup, on est à côté de la plaque parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas
désirs.
Les mêmes envies. Voilà. Et donc, Le tout, c'est pas de réclamer, c'est de dire, je vais t'expliquer. Si vous voulez, les hommes ont besoin de maîtresses. Une maîtresse, ça vous apprend à lire.
Attention à ce que vous dites à cette antenne.
Ça vous apprend la sexualité. Et les femmes, elles doivent expliquer aux hommes comment une femme fonctionne. Et je vais donner un conseil à vous et à vos amis. Il faut pas leur dire, écoute, moi, je réclame ceci et telle caresse. Il faut leur dire, écoute, je vais te dire une chose, tu n'as pas tellement compris comment fonctionnaient les femmes. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et là, je peux vous dire qu'un homme, il ouvre ses oreilles et il se dit, ah, d'accord. Faut pas lui dire, moi, j'ai besoin de ça. Faut dire, les femmes ont besoin de ça. Je vais t'expliquer. Tu seras bien meilleur amant quand tu m'auras écouté. Et je peux vous dire que dans mes patients, j'ai des hommes qui me disent, heureusement qu'il y a une femme qui m'a tout expliqué comment fonctionnaient les femmes, sinon je serais restée nulle toute ma vie. Donc, écoutez bien ce que disent vos copines et il faut pas qu'elles disent je réclame, il faut qu'elles disent je t'explique comment fonctionnent les femmes pour que tu sois un bon amant.
Mariam, est-ce que vous êtes satisfaite des explications de Catherine Solano ?
Oui, je suis satisfaite, mais il y a d'autres choses aussi que je voudrais ajouter.
Alors, on vous écoute ?
En fait, moi, je comprends que la sexualité est tellement tabou en Afrique que quand j'en parle souvent avec des camarades ou des grands hommes qui sont mariés, ils me disent souvent qu'ils préfèrent que lorsqu'ils sortent avec les petites filles du collège ou du lycée, ils sont beaucoup plus satisfaits que lorsqu'ils sont avec leurs femmes. Et quand je leur pose la question, je suis étonnée qu'ils me répondent tous non. Pourquoi ? Parce que les petites filles savent bien nous manier et puis nos femmes. Je dis, alors si vous apprenez quelque chose de vos copines, pourquoi ne pas apprendre cette chose à votre femme afin que vous soyez satisfaite à la maison sans aller chercher ailleurs ? Parce que dehors, vous dépensez, vous risquez des maladies. Ensuite, vous êtes souvent dans la déception. Parce que lorsqu'un grand homme, par exemple, sort avec une petite fille, c'est juste pour de l'argent d'une part et du sexe de l'autre part. Donc, la petite fille aussi a son amant quelque part, un jeune homme de sa catégorie, peut-être qui lui ressemble beaucoup, qui a le même goût de la vie qu'elle, mais de l'autre côté, elle veut juste sortir avec le monsieur parce que ce dernier lui satisfait financièrement. Alors je me dis que pourquoi ces hommes n'investissent pas leur temps et leurs connaissances dans leur relation avec leur épouse pour leur apprendre comment ils veulent, comment l'autre fait pour se maintenir dans leur foyer.
Oui.
Et chaque fois, la réponse est la même. On me dit, non, quand j'apprends ça à ma femme, elle risque de me dominer. Et quand ma femme me domine, quand je dépends d'elle, je sais que si elle apprend, je risque de trop l'aimer. Et en trop l'aimant, je risque de dépendre d'elle. Je ne pourrais pas la traiter comme je veux. Donc, je préfère même qu'elle n'arrête pas. Je préfère qu'elle ne sache pas ce genre de choses. Je préfère continuer à vivre ça avec ma copine. Comme ça, ma femme ne sera pas satisfaite, elle ne saura pas quels sont mes points faibles, donc je pourrai toujours continuer à la dominer.
Alors, c'est hyper... le rapport de domination.
Ah non, mais c'est passionnant ce que vous racontez, Mariam. C'est donc c'est, ce que vous décrivez, c'est très triste parce que ça veut dire qu'il y a des hommes qui préfèrent la prostitution, qui sont plus satisfaits de prostitution parce que quand on se fait payer, ça
parce
s'appelle de la prostitution.
Parce qu'ils peuvent assouvir leur désir alors qu'ils n'osent pas demander ça à leur femme. Enfin, c'est très paradoxal.
Voilà. Et donc ça veut dire en fait que ces hommes-là, ils ont peur. C'est ça la réalité. Ils ont peur de l'amour, ils ont peur des sentiments et ils ont tellement peur qu'ils passent à côté du bonheur, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas une relation complète où on a à la fois de l'amour et à la fois de la sexualité, où on peut se demander. Et ce qui est terrible, vous savez, ils ont tellement peur qu'ils passent à côté du bonheur parce qu'on sait que les pays où les hommes sont les plus heureux, c'est ceux où il y a le plus d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vraiment mathématique. Plus les femmes sont dominées, soumises, moins les hommes sont heureux. Et donc, à cause de leur peur, bah, ils passent à côté du bonheur. Mais je rajoute une chose encore. Je vois qu'Igor veut continuer, mais je rajoute une chose.
Ah non, allez-y, Catherine, on est bien. C'est on est avec Mariam qui est passionnante.
Je vais vous dire. Moi, vous voyez, je suis médecin sexologue. Ma mère on lui avait même pas expliqué ce que c'était que les règles. Vous voyez? Et donc, en une seule génération, on passe de tabou total de la génération de ma maman à une génération où on peut être médecin sexologue et vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce que ma mère était formidable et s'est dit, moi, je vais essayer d'expliquer des choses à mes enfants. Bon, c'était pas facile pour elle, vu son éducation, on lui avait rien dit, mais elle a fait de son mieux. Elle m'a acheté des livres, elle m'a inscrite à des formations. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous, vous êtes la génération qui peut faire changer les choses. Et ça, on l'entend dans votre voix. Et donc, quand vous allez avoir un ami vraiment, vous, vous allez réussir ça. Parce que les hommes aussi,
Mariam, oui. Mariam, communiquez. écoutez, on va vous remercier, Mariam, en tout cas, de nous avoir appelé de Conakry. C'était vraiment un témoignage passionnant. Alors, peut-être pour aller dans un sens inverse de ce que venait de dire Mariam, il y a un message sur Facebook qui nous est parvenu de Maudet qui nous dit « Quand j'ai des rapports sexuels avec ma femme, je suis totalement épanoui, mais dès que je vais voir ailleurs, j'ai des petits soucis, j'ai des problèmes d'érection et d'éjaculation. Là, c'est un homme épanoui avec sa femme, mais pas ailleurs. » On a envie de lui dire pourquoi allez-vous voir ailleurs.
Exactement, c'est la question. Et puis je peux dire que j'entends très souvent ça parce qu'en fait, quand un homme est avec sa femme, qu'il l'aime et qu'il est bien avec elle, il est en confiance. Et la confiance, c'est important pour avoir une bonne érection et pour prendre son temps avant de laisser venir l'éjaculation. Quand on est avec quelqu'un, qu'on est stressé, qu'on n'a pas confiance, qu'on a peur qu'elle vous critique, etc., eh ben ça marche beaucoup moins bien. C'est pour ça que c'est mieux d'attendre souvent quand on a une rencontre pour avoir un rapport sexuel, d'être suffisamment en confiance et bien avec l'autre, ça se passe souvent beaucoup mieux.
33 1 84 22 75 75 pour poser toutes vos questions au docteur Catherine Solano et nous sommes maintenant en ligne avec Nicolas qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Nicolas.
Bonjour monsieur, bonjour auditeur.
Alors quelle est votre question, votre témoignage d'ailleurs?
Bon, écoutez, par rapport à la question, donc au sujet que vous avez c'est dans longtemps, donc moi je trouve que c'est totalement c'est un sujet délicat qui vous m'excuserez, hein, je suis un peu déformé, ma voix est déformée par enchifrement. Bien que c'est un sujet délicat, on est africain, parfois cette émission renverse carrément le tabou. Donc
on est là pour briser les tabous, donc allez-y Nicolas, allez droit au but, oui. N'ayez pas aucune crainte.
Ok. Je crois que pour moi j'avais donc les préliminaires. Les préliminaires pour moi je joue un rôle primordial dans ce domaine avant de passer aux actes. Donc vous avez cité les préliminaires, les caresses, tout ça. Pour moi ce sont des variantes qui interviennent dans ce domaine, dans le rapport sexuel. Donc pour moi donc préliminaires pour moi sont de
donc c'est important pour vous les préliminaires, c'est ça que vous voulez dire, vous y accordez une place particulière avant le rapport en lui-même.
Oui vous pouvez imaginer, donc pour moi les préliminaires jouent un rôle primordial dans ce domaine.
C'est plutôt une bonne chose. Je sais qu'en pensez-vous, Catherine Solano? Peut-être un homme qui a tout compris à la nature des femmes.
Nicolas, vous êtes peut-être un homme qui avait tout compris parce que effectivement, pour qu'une femme soit épanouie sexuellement, pour que le rapport sexuel soit réussi, c'est bien qu'il y ait des préliminaires, c'est-à-dire des caresses, pas forcément sexuelles au début, des baisers, des mots doux, des caresses, etc. puis des caresses sexuelles, mais avant la pénétration, il faut que ça dure au moins 20 minutes. Il y a eu des études faites. En général, une femme a besoin de 20 minutes de préliminaire pour avoir une lubrification, un gonflement des tissus qui fasse que la pénétration se passe bien pour elle et qu'elle soit agréable. Bon, c'est une moyenne. Des fois, on peut ne pas s'être vu depuis 3 mois et se sauter dessus en 3 minutes. Évidemment, ça n'interdit pas ça, mais vraiment, la durée des préliminaires, c'est important. Et je vais ajouter une chose pour les hommes, c'est que quand les préliminaires durent longtemps, c'est-à-dire que quand un homme reçoit des caresses aussi non sexuelles, il a moins tendance à l'éjaculation précoce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les hommes ignorent souvent, ils vont trop droit au but. Et quand on a une éjaculation trop rapide, bah, c'est bien de recevoir des préliminaires, c'est-à-dire pour de la part des femmes, de caresser leur partenaire sur le visage, le cou, les épaules, les pieds, les jambes, et pas tout de suite sur le sexe.
Alors, je rebondis justement sur les préliminaires et pour éviter l'éjaculation précoce, puisque Ariane, qui nous écrit sur Facebook de RDC, nous dit comment justement vaincre mon éjaculation précoce qui ne me permet pas de jouir pleinement de mes rapports sexuels. Pour être encore un peu plus complet, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Adrien ?
Alors déjà, ce qui est important pour ne pas avoir d'éjaculation précoce, c'est d'avoir des rapports sexuels réguliers. C'est-à-dire qu'un homme qui a un rapport sexuel par mois, bah, parce qu'il voit pas son ami souvent, il va avoir tendance à avoir une éjaculation précoce. On n'y peut rien, c'est la vie, c'est normal. Il faut que toutes les femmes le sachent. Quand un homme n'a pas eu de rapport sexuel depuis longtemps, c'est normal que ça soit rapide. C'est seulement quand on a 2-3 rapports sexuels par semaine régulièrement que l'éjaculation peut devenir beaucoup plus tard, que ça peut durer plus longtemps. Ensuite, il faut des longs préliminaires, ça je l'ai dit. Et ensuite,
au moins 20 minutes.
Voilà,
hein,
au moins 20 minutes.
Précisé.
Voilà, et pas seulement des préliminaires de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme, des caresses non sexuelles au début. Et puis une chose qui est très importante pour les hommes, y compris les hommes célibataires, c'est de s'entraîner par la masturbation à faire durer longtemps. Parce que si vous entraînez depuis l'adolescence jusqu'à vos premiers rapports sexuels votre sexe à réagir très vite par la masturbation, ben il n'y a aucune raison quand vous avez des rapports sexuels, ils se disent « Oh ben maintenant, je vais faire durer longtemps ». Non. Donc il faut vous entraîner par la masturbation à ce que ça dure longtemps. Du coup, votre cerveau va être entraîné à déclencher l'éjaculation plus tard.
Écoutez, il faut s'entraîner donc. J'en reviens à Nicolas donc avec sa question et son témoignage sur les préliminaires. Est-ce que vous étiez satisfaite et vous étiez dans le droit chemin, dans la vérité, on a envie de dire avec Catherine Solano. Vous êtes satisfait Nicolas ?
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, un couple peut avoir fréquemment des rapports sexuels normaux, mais si vous ne parvenez pas à l'orgasme, donc c'est comme si vous n'avez rien fait. Pour moi, c'est comme ça. Il faut que d'abord commencer par les préliminaires avant d'arriver aux actes. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire.
Alors,
donc,
mais...
en fait, oui.
Alors j'ai quelque chose à dire de très important. Là, on voit bien que vous êtes un homme. Bon, on avait remarqué, mais c'est-à-dire que vous dites que si on n'arrive pas à l'orgasme, c'est comme si on n'avait rien fait. Eh ben, c'est totalement faux pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont un rapport sexuel, qui n'ont pas d'orgasme et qui sont très satisfaites, qui ont trouvé ça formidable. L'orgasme est beaucoup moins indispensable à la satisfaction féminine qu'à la satisfaction des hommes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes frustrées. Hein. Une femme peut être frustrée aussi de pas avoir un orgasme, mais il y a beaucoup de femmes qui disent moi, c'est pas grave si j'ai pas d'orgasme, ça peut être génial quand même.
Il y a quand même du plaisir,
ah,
même en
plaisir,
absence d'orgasme.
Beaucoup de plaisir, beaucoup de désir. Oui, voilà, le plaisir, c'est pas seulement l'orgasme.
Bon, eh bien écoutez, merci en tout cas Nicolas de nous avoir appelé de Kinshasa. C'est toujours un plaisir d'avoir le témoignage de nos auditeurs. On va partir à Cotonou à présent, puisque nous sommes en ligne avec Tagbo. Bonjour Tagbo.
Bonjour Igor et bonjour à docteur Catherine Solano.
Bonjour Tagbo.
Nous vous écoutons Tagbo.
Ok, d'accord. Ma question, en fait, j'ai déjà entendu plusieurs fois la réponse avec le docteur Catherine, mais je pense quand même qu'il y a lieu, en fait, de se préoccuper. Alors, on constate de plus en plus l'industrie pornographique qui nous donne souvent des vidéos. C'est vrai que moi-même, j'en suis aussi adepte de regarder ces vidéos-là. Et donc, je me pose, en fait, en réalité, la question de savoir quel est, en fait, l'impact de l'importance, de la taille du sexe dans des rapports, parce que souvent, dans ces vidéos, on voit en fait que c'est un peu cet aspect qui est mis devant. Donc, je me suis dit, est-ce qu'en réalité, avoir une taille un peu plus au-dessus de la moyenne, en fait, favorise, comment est-ce qu'on appelle ça, la satisfaction de sa partenaire. Donc, c'est un peu ça ma question.
Alors, on va répondre même à deux questions, finalement, j'ai envie de dire, Catherine. Un, la taille du sexe est-elle importante dans le rapport sexuel et dans le plaisir donné à la femme? Et puis, pourras peut-être aussi dire un mot sur la pornographie, qui est un mauvais exemple, une mauvaise école finalement.
Ah oui. Bah déjà pour la taille du sexe, c'est une mauvaise école parce que le casting, je veux dire le choix des acteurs, se fait sur la taille
sur
du
critères,
sexe.
Oui, là.
Parce que forcément, un film c'est visuel, donc c'est ce que vous voyez qui compte, et donc on choisit des acteurs qui ont un sexe très grand. Du coup, il y a énormément d'hommes complexés par la taille de leur sexe. Et il y a même eu une étude que je trouve incroyable. Ils avaient pris 1000 hommes, de mémoire c'était à peu près 1000, qui consultaient pour un pénis trop petit, donc pour un micro-pénis. Et est-ce que vous savez, en mesurant le pénis, combien avait réellement un micro-pénis sur 1000?
Je n'en ai pas la moindre idée.
Eh ben zéro. Non mais c'est dingue.
Donc,
aucun n'avait un problème. Et à force de regarder des vidéos comme ça, on s'imagine qu'on n'est pas normal et c'est totalement faux quoi. Donc ça on a voilà.
Bon, ça c'était pour la pornographie. Voilà. Ensuite, le rapport taille du sexe et plaisir.
Alors, la taille du sexe pour les femmes, c'est important. Seulement si la femme a une mauvaise musculation vaginale. C'est-à-dire que si vous voulez, une mauvaise musculation périnéale, je pourrais dire. Vous savez que le vagin, c'est pas un trou, comme on entend parfois dire, c'est une fente. C'est-à-dire que quand le vagin est au repos, ces deux parois se touchent. Donc quand vous rentrez le pénis dans le vagin, de toute façon, qu'il soit grand ou petit, il va appuyer sur les parois du vagin puisqu'il les oblige à s'écarter en rentrant. Et donc, c'est cette pression qui peut déclencher du plaisir chez une femme. Si une femme a un vagin qui a des parois très toniques, que le sexe soit petit ou grand, elle va avoir des sensations. Si ses parois sont pas toniques du tout, sont un peu ramollies, par exemple, tout de suite après un accouchement, par exemple, parce qu'il a été étiré, eh bien, elle aura pas de sensations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une femme se plaint de pas avoir de sensations parce que le pénis de son partenaire est trop petit, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse de la musculation du périnée. C'est-à-dire qu'elle contracte, qu'elle s'entraîne, par exemple pendant la pénétration, à serrer ses muscles autour du pénis et petit à petit, elle va se muscler et ressentir de plus en plus de choses. Et de la part de l'homme, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut rien faire, ça veut dire que quand vous faites une pénétration, il ne faut pas... L'idéal pour donner du plaisir à une femme, hein, je dis, c'est pas rentrer le plus loin possible et ressortir, c'est rentrer et buter contre la paroi du vagin, c'est-à-dire être en biais un petit peu, buter à droite, à gauche, en haut, en bas, et observer quel endroit donne le plus de plaisir à la partenaire. Parce que le vagin n'est pas très sensible au frottement, il est sensible aux pressions. Ça veut dire qu'il faut se servir du pénis comme pour faire un massage sur la paroi du vagin. Et donc là, la taille du pénis n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir une érection suffisamment tonique pour pouvoir appuyer sur la paroi du vagin.
Donc, ça va rassurer beaucoup d'auditeurs parce que on a Bénique, pardon, qui nous écrit aussi sur Facebook. Est-ce que les produits excitants et les produits pour allonger le pénis sont efficaces? Est-ce qu'ils permettent une meilleure sexualité? Finalement, non. C'est plus une question de musculation
et
du muscle périnéal, c'est ça?
De musculation.
Et de technique.
C'est de musculation du périnée chez la femme et de technique de pénétration chez l'homme qui doit pas chercher à faire des mouvements de va-et-vient et de frottement. En tout cas, pas au début. Au début, il faut plutôt faire des pressions sur les parois du vagin. Et puis, pour cette question-là, non, il n'y a aucun médicament ne peut allonger le pénis quand on a passé la période de la puberté. Quand on est en période de puberté où les enfants, il y a des hormones, quand il y a des anomalies, on peut donner des hormones qui aident le pénis à grandir. Mais après la puberté, il n'y a aucun médicament. C'est uniquement des arnaques, ce qu'on vend pour faire grandir le pénis.
Eh bien, écoutez, Catherine, on va remercier Tagbo qui nous appelait donc de Cotonou au Bénin. Et on va marquer une petite pause en musique. Et puis, évidemment, on revient pour répondre à toutes vos questions, chers auditeurs. Mais tout de suite, c'est Juliette Armanet, L'amour en solitaire sur RFI.
Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages. Seul dans ma fête, c'est dommage, et te c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau, je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, tes matelots. We'll
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de Priorité Santé. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel réussi? Aujourd'hui, le docteur Catherine Solano répond à toutes vos questions pour avoir des rapports épanouis. Et pour nous joindre, c'est très simple. Vous composez le 33 1 84 22 75 75. C'est ce qu'a fait Abdourahmane qui nous appelle de Conakry. Bonjour Abdourahmane.
Bonjour docteur.
Alors, le docteur est à mes côtés. Quelle est votre question, Abdourahmane?
Ok, je dis encore bonjour, docteur Catherine, à toute l'équipe des RFI de Priorité Santé.
Merci, Abdourahmane. Alors, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Ah, eh bien, nous avons perdu Abdourahmane. C'est dommage, il avait une question extrêmement intéressante. Est-ce qu'on peut... Oui, Abdourahmane? Bon, ben écoutez, je vais...
Ça, c'est bizarre.
Alors, est-ce qu'on a un autre auditeur ou est-ce que je lis la question d'Abdourahmane dans ma voix? Alors, on va passer à Franklin, lui qui est à Abomey. Bonjour, Franklin.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Franklin, en espérant que la ligne ne coupe pas.
Non, même pas.
C'est ce qu'on souhaite.
Moi, il y a deux questions. La première, c'est de savoir quelle est la fréquence normale pour un rapport sexuel. Bon, parce que souvent, on a peur, si on abuse, est-ce que ça aura des conséquences? Donc, la deuxième question, c'est de savoir, un rapport sexuel normal doit durer combien de temps? Parce que souvent, les films à caractère pornographique, souvent, on est influencé par ça qui dure plus d'une heure. Donc, on veut savoir si la réalité aussi doit être comme ça, en fait.
Alors, j'ai envie de dire, ne croyez pas ce qui se dit, oui. Ce qui se fait dans les films pornographiques. Oui. C'est un avis personnel, mais je pense que vous le partagez, Catherine. Et qu'est-ce qu'on peut dire donc sur la fréquence des rapports et la durée des rapports? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Franklin?
Alors, la meilleure fréquence des rapports sexuels, elle existe, hein, c'est celle qui convient aux deux partenaires. Si deux personnes sont épanouies avec une fréquence donnée, c'est que c'est bien. Ça peut être une fois par mois pour certains couples, ça peut être trois fois par jour pour d'autres, ça dépend totalement des couples. Et alors, je vais dire une chose très importante, parce qu'il y a des gens qui complexent en disant « nous, on fait l'amour qu'une fois par semaine, tous mes copains le font cinq fois par semaine ». En fait... ces calculs sont complètement bidons parce que, je vais vous dire une chose, il y a des couples qui font l'amour une fois par semaine pendant 3 heures. Et d'autres qui le font tous les jours pendant 5 minutes. Si vous mettez 5 minutes par 7 jours, ça fait même pas une heure. Donc, il y en a qui vont complexer en se disant « nous, c'est seulement une fois par semaine ». Et ben ils passent plus de temps dans leur semaine à faire l'amour que ceux qu'ils font tous les jours parfois. Donc, c'est pas le nombre de fois qui compte, c'est le temps qu'on consacre à l'autre. Dans la sexualité ou dans l'intimité, ça peut être pour parler, enfin, c'est un tout. Donc, il n'y a pas une fréquence conseillée. Bon, maintenant, pour vous dire quand même quelque chose de plus net, quand on pose la question à des personnes, qu'est-ce que c'est pour vous la fréquence des rapports sexuels idéale? Je dirais que 80% des gens disent entre 2 et 3 fois par semaine. C'est à peu près ce qui se dessine, je dirais, quand on interroge les gens. Voilà. Donc, vous avez aussi posé la question sur la durée.
La durée du rapport, exactement.
Voilà, la durée du rapport. Alors, je répète peut-être un peu, mais il y a les préliminaires. On sait que la durée moyenne des rapports, ça a été étudié, c'est 20 minutes. Mais
hors préliminaire, vous voulez dire?
Tout compris. Avec
les... Non, mais si on compte 20 minutes de préliminaire.
Mais oui, justement,
ça veut dire
que la plupart du temps, il n'y a pas assez de préliminaires. Oui, je suis d'accord. En moyenne, c'est 20 minutes. C'est pas tout à fait suffisant. Ceci dit, ça, vous pouvez avoir 20 minutes de préliminaire, 5 minutes de pénétration. C'est pas ridicule du tout. C'est déjà des rapports sexuels normaux. Maintenant, si vous êtes un jour où vous avez beaucoup d'excitation, vous, par exemple, vous n'êtes pas vu depuis 15 jours, vous vous retrouvez, ça peut durer 5 minutes ou 10 minutes et vous aviez très envie et c'est super. Ça peut être une autre fois où vous dites, ben, on a toute la nuit devant nous, on prend tout notre temps et ça va durer 3 heures ou toute la nuit si vous voulez, ou une heure ou une demi-heure, peu importe. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les films pornographiques, tout est bidon, c'est-à-dire que c'est coupé. Si vous voulez, c'est comme si on vous fait l'amour aujourd'hui, ce soir, en 20 minutes. On va filmer 4 minutes, demain on en filme 5, après-demain 2, et on met tout ça bout à bout, et on fait un film, on dit vous avez fait l'amour pendant 2 heures, parce que le film dure 2 heures. En fait, c'est des montages, donc c'est pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est impossible d'avoir un rapport sexuel qui dure une heure, avec un mouvement de va-et-vient pendant une heure. La femme va avoir la muqueuse du vagin arrachée et l'homme, il va avoir mal au pénis. Hein, c'est pas possible. Quand je parle de gens qui font l'amour pendant 3 heures, ça veut dire qu'ils font beaucoup de préliminaires. Ils vont faire une pénétration pendant 1, 2, 5 minutes. Ils vont arrêter. Ils vont refaire des caresses. Ils vont recommencer un peu de pénétration, réarrêter. C'est pas, personne ne fait du pilonnage pendant 1 heure, vous voyez? Enfin, c'est pas très élégant ce que je dis, mais dans les films pornographiques, c'est pas très élégant.
C'est pas non très plus. Élégant, mais on a compris au moins. Franklin, êtes-vous satisfait de la réponse de Catherine Solano?
Oui.
Est-ce que vous êtes rassuré, hein? Vous avez bien compris, oubliez l'image des films porno et voilà, ce sont des films, ça ne correspond pas à la réalité.
Dans un film, ils ont une éjaculation précoce ou une panne, et ben on coupe. On va pas vous le montrer, vous voyez ce que je veux dire, dans la vraie vie, c'est pas comme ça.
Bon, bah écoutez, en tout cas, merci infiniment, Franklin, de nous avoir appelé d'Abomé. On a retrouvé Abdourahmane qui nous appelait de Conakry. Rebonjour, Abdourahmane.
Bonjour, docteur Catherine, et à toute l'équipe des RFI Priorité Santé.
Bonjour, Abdourahmane.
Bonjour à vous, Abdourahmane. Nous vous écoutons en espérant que la ligne ne coupe pas.
D'accord. Pour moi, un rapport sexuel réussi, c'est lorsque le couple se sent parfaitement à l'aise. Et cela dépend de plusieurs facteurs, selon moi. C'est-à-dire la préparation psychologique est très importante quand nous sommes ensemble. La conversation aussi, nous causons beaucoup. Et nous passons beaucoup de temps à faire les préliminaires. Parfois, on peut faire 40, voire 50 minutes dans les préliminaires. Elle les caresse, je lui caresse, elle me caresse aussi. Et en ce qui concerne sa personne, elle a des zones qui sont très érogènes que j'ai eu à découvrir au fil du temps. C'est-à-dire les seins, son organe génital, surtout le clitoris. Quand je touche là-bas, elle est beaucoup plus excitée. Ses seins aussi, ses oreilles. Et quant à moi, ce que moi j'aime beaucoup, c'est la fellation. Et finalement, nous avons développé ça au fil du temps, jusqu'à ce que vraiment on a tendance à oublier même la pénétration. Et même si on doit faire la pénétration, c'est après avoir éjaculé deux après ma fellation, pour faire la pénétration. Et cette pénétration aussi, maintenant, ce qui m'inquiète, j'ai tendance à oublier ça même. Je passe beaucoup plus de temps à faire des caresses, la fellation avec elle. Maintenant, j'aimerais des conseils par rapport à ça aussi.
Mm-hmm. Bon, je ne pense pas que vous ayez besoin de beaucoup de conseils. A priori, tout va bien, Catherine Solano.
Non, ce n'est pas que je développe une dépendance.
Ah oui.
D'accord. Une dépendance des préliminaires.
Non, mais alors, c'est
parce
pas...
Parce que j'ai tendance à oublier la pénétration, à mon avis.
Voilà, écoutez, je vais vous dire. Alors là, c'est pas... S'il y avait que des personnes qui ont une maladie comme vous, ça serait pas grave. Donc, d'abord, bravo, parce que vous avez parlé de préparation et de conversation. Vous êtes un homme formidable. Si vous avez des frères et des cousins, je pense qu'on va avoir plein d'auditrices qui vont avoir envie de les connaître, parce que des hommes comme ça, on en cherche tout. Hein. Et donc, les préliminaires de 40 ou 50 minutes, c'est super, surtout que vous en parlez. On l'entend avec le sourire et la joie, c'est-à-dire que vous les faites avec plaisir. Vous vous dites pas, bon, il faut faire au moins 20 minutes de préliminaire.
Et puis, il y a eu la découverte très naturelle du corps de l'autre. Ça aussi, c'est important.
Oui, voilà. En plus, vous avez dit, j'ai découvert ces zones érogènes. Et ce que j'ai entendu, vous avez passé très vite dessus, les oreilles. Parce que les seins et le clitoris, c'est classique, mais les oreilles, c'est pas toutes les femmes. Donc, on découvre des zones érogènes quand on fait beaucoup de préliminaires. J'ai un de mes patients à qui j'avais réussi à dire de faire plus de préliminaires avec sa partenaire, il m'a dit « Oh, mais j'ai découvert que l'arrière de mes genoux, le creux du genou, c'était une zone très érogène chez moi. Je le savais pas. C'est en explorant qu'on découvre. Ça, vous avez découvert plein de choses. Vous aimez la fellation, le sexe oral, tous les deux, c'est bien. Et vous dites « Mais je pense beaucoup moins à la pénétration. »
Est-ce que c'est inquiétant, ça, ou pas? C'est ça, le fond de la question, finalement.
Pas du tout. Ça n'a pas d'importance. Le seul moment où ça pourrait être gênant, c'est si vous le faites vraiment jamais et que vous voulez des enfants et que vous avez oublié qu'il fallait faire une pénétration pour avoir des enfants et que vous dites on n'arrive pas à avoir de bébé, pourtant on fait l'amour souvent. Si vous voulez, chaque couple trouve la sexualité qui lui convient. Il y en a, ça va être beaucoup dans la pénétration et pas tellement dans les caresses, beaucoup moins. Il y en a, ça va être toutes les caresses et la pénétration, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est tout le reste. C'est pas gênant du tout. Il n'y a pas de dépendance. La sexualité, c'est quelque chose de naturel. Quand c'est fait dans l'amour, dans le respect, dans le plaisir à deux, il n'y a pas de dépendance. La dépendance, c'est quand il n'y a pas de sentiment, quand c'est quelque chose qui devient mécanique. Vous, c'est pas du tout une dépendance, c'est que vous, au contraire, c'est comme si vous étiez artiste, vous voyez, c'est un art pour vous, la sexualité, vous le développez, vous avez du plaisir. Donc je vous dis bravo.
Ah bah écoutez, tant d'éloges, Abdourahmane, ouais. Vous devez être rassuré.
Oui.
Bon, bah écoutez, félicitations de la part de toute l'équipe de Priorité Santé, alors, oui. Et bonne journée et bonne sexualité avec votre partenaire. Merci Abdourahmane, on repasse au standard et nous sommes maintenant en ligne avec Amadou qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Amadou.
Bonjour, la RFI.
Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI, quelle est votre question, votre témoignage?
Bon, mon témoignage, c'est que je pense que pour avoir une vie sexuelle épanouie, c'est de tout d'abord le socle, c'est de se connaître, d'échanger bien. Mm-hmm. Entre toi et ta partenaire, vous devez vous connaître, tu connais son côté sensible, la partie, ses parties qui sont plus excitantes et autres.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites Amadou, parce que début de cette émission, on parlait de la sexualité taboue, du manque de communication entre les couples justement, de ces couples qui n'osent pas dire leurs zones érogènes, ce qu'ils préfèrent en termes de pratique. Vous, c'est quelque chose que vous avez su surmonter, il n'y a pas de tabou dans votre sexualité avec votre partenaire ?
Il n'y a plus de tabou. Au début, j'avais un tabou, parce que vraiment, vu mon côté religieux, ça m'interdisait de pratiquer certaines pratiques. Mais vraiment, maintenant, avec vu qu'on a beaucoup échangé, et elle me disait même au début, ouais, si tu ne fais pas tant, j'irai aller voir ailleurs. Donc, je suis vite adapté à elle, vu que j'étais à elle, tout et tout.
Mmh. Mmh. Ben écoutez, ouais. c'est plutôt bien, Catherine Solano.
Alors, je trouve ça très intéressant ce que vous dites. C'est, vous avez dit au début, c'était tabou, mais petit à petit, on était plus à l'aise. Ben oui, c'est vrai que quand on commence sa vie sexuelle, Igor disait, ben c'est bien de dire à l'autre quelles sont vos zones érogènes. Mais oui, mais quand vous commencez, des fois, vous le savez pas quelles sont vos zones érogènes. Donc, il faut, au début, ben ça marche pas très bien. C'est rarement les premiers rapports sexuels qui sont les meilleurs. Parce qu'on se connaît pas, on connaît pas l'autre, on n'ose pas parler. Petit à petit, on parle un tout petit peu. Puis on voit que ça fait du bien, puis on parle un peu plus, puis on ose d'autres caresses. Et vous avez parlé du côté religieux. Moi, à mon sens, il n'y a aucune religion qui interdise de s'épanouir sexuellement en couple. Bien au contraire, je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui est vraiment central dans le couple. Et même les religions ont intérêt à ce que les couples s'entendent bien et soient heureux ensemble pour faire des familles solides et où ça se passe bien, qui élèvent leurs enfants dans la joie et l'harmonie. Parce que vous savez que quand un couple s'entend bien sexuellement, mais ses enfants le sentent. Bon, ils le voient pas, évidemment, ils n'assistent pas aux ébats, heureusement, mais ils sentent qu'il y a une ambiance, une complicité entre leurs parents, et ça, c'est extrêmement précieux pour leur joie de vivre et pour leur sexualité future, parce qu'ils se disent bah, c'est possible d'être un couple heureux, voyez. Donc, tout ça, c'est très, très important.
Amadou, êtes-vous satisfait de cette réponse de Catherine Solano ?
Oui, je suis satisfait.
Oui, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ? Tant qu'à faire, on vous a à l'antenne.
Là, j'aimerais demander, bon, là, pour... Mm-hmm. Est-il normal de pratiquer les rapports sexuels chaque matin, mm-hmm, au réveil?
Eh bien, si ça vous fait plaisir et à votre partenaire, c'est même une bonne manière de commencer la journée, je dirais. Tout à fait, c'est ce que je disais, il y a des couples qui vont par exemple faire l'amour tous les matins au réveil parce que c'est leur heure, ils sentent bien à ce moment-là. Il y a des couples qui le font tous les soirs avant de s'endormir, même en quelques minutes, en disant bah pour nous c'est comme un petit câlin, et puis ils vont le faire d'autres fois où ça dure beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas de règle, du moment que tous les deux vous vous sentez bien, c'est que c'est bien.
Ben écoutez, merci en tout cas Amadou de nous avoir appelé d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors on a beaucoup de jeunes auditeurs et de jeunes auditrices qui nous appellent et qui se posent des questions. Je vais lire une des questions de Sidi qui est à Conakry. Je suis sur le point de me marier. Est-il possible dès le premier contact de la satisfaire? Et est-ce possible qu'elle tombe enceinte? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors un sur la satisfaction dès le premier rapport et puis sur le risque de tomber enceinte, Catherine.
Alors déjà, le risque de tomber enceinte, il est très haut pour un premier rapport sexuel, tout simplement parce que il y a toujours un risque quand on a une pénétration et un rapport sexuel d'avoir une grossesse, et que plus on est jeune, plus on est fertile. Donc il y a plus de risques la première fois que 10 ans après, puisque on sera un peu moins fertile. Ça, c'est très net. Sur le plan de la satisfaction, bah franchement, moi j'avais fait une enquête chez les jeunes, il y a 5% des femmes seulement qui avaient un orgasme la première fois. Donc c'est très peu. Ça veut pas dire qu'elles n'ont pas de plaisir, par contre. Donc il faut pas croire que vous allez faire des miracles la première fois, mais j'en profite pour vous donner ma définition du rapport sexuel réussi, après avoir beaucoup réfléchi pendant des années. Pour moi, un rapport sexuel réussi, c'est quand, après le rapport sexuel, on se sent beaucoup plus proche qu'avant. quand ça vous a rapproché. Donc ça veut dire que même un rapport sexuel raté techniquement, la première fois, ça peut être raté techniquement. On n'arrive pas à faire la pénétration, ça fait mal, on se sent maladroit, mais ça peut être réussi parce qu'on est content d'avoir été dans l'intimité tous les deux. On en rigole et on se dit on n'est pas très doué, c'était pas tellement réussi, mais on se sent plus proche parce qu'on a partagé une expérience. Et ben c'est réussi quand même. Donc faut pas vous dire ça, je dois faire une prestation formidable la première fois. Faut vous juste vous dire on va apprendre à se connaître.
Allez, on va encore donner des conseils à nos jeunes auditeurs. Ibrahim de Yaoundé qui nous dit j'ai 18 ans, je n'ai encore jamais fait l'amour. Ma petite amie a été violée dans le passé et je ne sais pas comment faire pour réussir la première fois pour qu'elle ne soit pas traumatisée et que tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Catherine, ça c'est vraiment un problème à part, mais essentiel.
Oui. Alors, ce qu'il faut lui... Déjà, c'est formidable, ça veut dire que vous êtes dans un rapport de confiance, qu'elle vous en ait parlé. Vous voyez, ça c'est quelque chose, ça veut dire qu'elle vous fait confiance. Et donc, ce qu'il faut, c'est surtout qu'elle ne se sente jamais forcée. Donc, il faut lui dire, écoute, je sais ce qui t'est arrivé. Si à un moment, ça te fait peur, je te fais peur par un geste ou quoi, j'arrête tout de suite. Alors, vous aurez peut-être l'impression que ça va vous empêcher de faire beaucoup de choses. C'est le contraire, parce que plus elle saura qu'elle peut vous dire stop à un moment, plus elle pourra être détendue. Donc ça, c'est très important. Et ce qu'il faut pour votre première fois, c'est vous dire peut-être qu'on pourra pas aller jusqu'au bout, mais peut-être qu'il faudra 5 ou 6 fois ou 10 fois pour qu'elle se sente rassurée dans son corps. Mais en allant doucement, on arrive vraiment à trouver suffisamment de confiance pour qu'elle puisse avoir du plaisir par la suite.
Merci pour tous ces conseils pour les jeunes auditeurs. On repasse au standard 33 1 84 22 75 75. Et nous sommes avec Pierre de Côte d'Ivoire. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Pierre. Quelle est votre question?
Je voudrais savoir si après 60 ans ou à 60 ans, est-ce que le plaisir sexuel existe réellement comme il a existé lorsqu'on avait 18, 19, 20 ans?
Eh bien, écoutez, Catherine Solano vous répond tout de suite, Pierre.
Eh bien, je dirais oui. Oui, franc et massif. Le plaisir sexuel existe même à 70 ou 80 ans. Toute la vie, on peut avoir du plaisir sexuel. Même à 90 ans, moi j'avais un patient de 90 ans qui était veuf, sa femme était décédée. Il me demandait, est-ce que la masturbation c'est dangereux? Il savait très bien que non, mais il me dit, on me l'a tellement dit que c'était dangereux quand j'étais petit, mais il avait du plaisir par la masturbation. Donc le plaisir sexuel, ça existe toute la vie. Avec les années, on peut avoir des érections un petit peu moins bonnes, mettre un peu plus de temps à éjaculer, etc. Les préliminaires doivent durer plus longtemps, mais le plaisir, il est toujours présent et ça va durer même après 60 ans.
Eh bien écoutez, vous voilà rassuré, Pierre?
Oui, mais je voudrais encore demander, parce que ici, là, lorsque madame est à la ménopause, il y a beaucoup de commentaires, non, on ne doit pas aller avec elle, non, elle va mourir, non, elle va attaquer telle maladie.
La ménopause, ce n'est pas la mort, Pierre, on peut peut-être rassurer tout de suite les auditrices.
Ah oui.
En Afrique, ici, vous savez que le sexe est tabou.
Oui, ça on l'a dit déjà au début de cette émission, voilà. On le sait.
Mais alors, la ménopause, alors figurez-vous que j'ai une amie qui m'a dit un truc qui m'a fait rire et me dit vraiment, Catherine, tu vois, je trouve que vraiment la meilleure des contraceptions, c'est quand même la ménopause. Et ça m'a fait rire parce que justement, les femmes après la ménopause peuvent être libérées de la contraception. Si on veut pas d'enfant, en général, quand on a 50 ans, on a déjà eu ce qu'on voulait comme enfant. Ou ce qu'on a pu faire, et donc on n'a plus besoin de pilules, de stérilets, de rien du tout, et ça c'est vraiment quelque chose qui peut libérer les femmes. Elles peuvent toujours avoir du plaisir, elles peuvent toujours donner du plaisir, elles peuvent toujours être aimées et aimées, et donc il n'y a aucune raison, c'est dans la tête, je sais pas, c'est bizarre comme idée de dire qu'après la ménopause ça va rendre une femme malade, au contraire. Si elle a des rapports sexuels réguliers, ça entretient un bon état du vagin, qui est plus moelleux, plus doux, donc ça lui fait du bien plutôt. Et pour le moral aussi, je dirais. Enfin.
Merci infiniment Pierre de nous avoir appelé de Côte d'Ivoire. On va prendre une dernière auditrice, hein, le temps passe très vite. C'est Armel, bonjour Armel.
Bonjour à toute l'équipe de RFI. Moi je voulais juste donner un témoignage parce que j'ai entendu des choses qui m'ont amusé pendant l'émission. Et enfin, c'est une expérience personnelle. C'était juste pour dire que je pense que c'est aussi fondamental la communication et la confiance au sein d'un couple ou avec quelqu'un avec qui on a une relation sexuelle, parce que je me suis rendu compte que toutes les relations les plus épanouies que j'ai eues, les rapports sexuels les plus épanouis, c'est vraiment quand on est en confiance, et c'est très important, c'est quelque chose qui se cultive, parce que moi j'étais avec quelqu'un pendant trois ans, et j'avais pas forcément les liens avec une personne que je viens de rencontrer il y a tout juste 2 mois, et je pense que la confiance et la communication au sein d'un couple, ça n'a pas été assez dit, c'est quand même fondamental pour avoir des rapports sexuels épanouis, quelle que soit la longueur du pénis, la durée, tout ça. Moi, je pense que c'est très, très, très important, et il faut le dire. Donc, communiquons. Voilà.
Et comment on acquiert cette confiance, justement? Pour vous, quel a été le déclic? C'était votre partenaire, tout simplement, qui...
C'est un rapport qui se crée, donc... Avant, on a été amis pendant un bon moment. La confiance, voilà, c'est déjà la personne qu'on rencontre, et puis c'est partager des valeurs communes, avoir des désirs communs. Donc c'est vraiment un rapport qui se construit dans la durée. Ça peut se faire très rapidement, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Mais je pense que oui, c'est quand même fondamental.
Eh bien, écoutez, Catherine Solano, qu'est-ce qu'on peut dire à Armelle ?
Je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites. Ben oui, la confiance, ça permet de se laisser aller au plaisir, d'oser dire ce qu'on pense, ce dont on a envie, de pas se sentir mal jugé. On sait qu'on est aimé, accepté comme on est. Et puis, dans ce que vous dites, ce que je trouve intéressant, c'est que la sexualité, c'est tout sauf quelque chose de superficiel pour être réussi. C'est-à-dire que vous avez parlé d'être amis. On sait que les couples qui sont amis sont des couples qui sont beaucoup plus durables et qui sont plus heureux. Vous avez parlé des valeurs, ben c'est quelque chose de très important. Quand on partage les mêmes valeurs, on est sur la même longueur d'onde et du coup, on peut plus être en confiance et ça se passe mieux et c'est plus réussi. Et vous avez raison.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Armelle, en tout cas, de nous avoir appelé pour ce bien joli témoignage. Bonne journée à vous. Il nous reste 30 secondes, Catherine. Alors, une question qui revient très souvent, hein. Là, c'est Mariama d'Agadez. J'ai toujours envie de faire l'amour. Je ne suis jamais satisfaite. Que puis-je faire pour calmer mon envie? C'est une question qui revient très souvent.
Ah oui. Alors, quand on n'est jamais satisfait, même si on fait l'amour très souvent, en général, c'est pour qu'on a un manque affectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu dans notre enfance l'amour dont on aurait eu besoin à la manière dont on aurait eu besoin. Donc, on cherche sans cesse ça. Et ça n'est pas possible que quelqu'un vous contente à ce niveau-là parce que ça a des racines dans le passé.
Merci infiniment, en tout cas, Catherine Solano, d'avoir répondu à toutes ces questions. On vous retrouve le mois prochain pour une autre émission spéciale sexualité et toutes les semaines dans votre chronique, dans Priorité Santé. C'est la fin de cette émission qui était préparée par Sigrid Azerwal. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu. Demain, vous retrouverez Caroline Paré derrière ce micro. Bonne journée à tous et à bientôt.